VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Abidjan, midi à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, l'armée loyaliste contrôle la capitale et ratisse aujourd'hui le quartier de Ouagadougou où se trouve la caserne des ex-putschistes de la garde présidentielle qu'elle a attaquée hier. Le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef des putschistes, dit craindre qu'il y ait eu de nombreux morts quand les loyalistes ont pris d'assaut le camp des éléments du régiment de sécurité présidentielle RSP, fer de lance du coup d'État manqué, qui refusait de désarmer. Le leader du putsch raté a parlé hier soir à l'AFP d'un endroit qui n'a pas été révélé après l'attaque des loyalistes. Idrissa Seloudia.
Le général Diendéré a déclaré « Ils ont sorti l'artillerie, ils ont tiré sur le camp. Malheureusement, il y avait des familles, la clinique dans le camp. Il doit y avoir beaucoup de morts et de blessés. Il faut dire qu'aucun bilan de l'assaut n'était disponible dans l'immédiat. » À l'issue d'un bras de fer entre anciens putschistes et autorités légales, l'armée a lancé l'assaut en fin d'après-midi hier sur la caserne où s'étaient retranchés des soldats du RSP réticents à désarmer. La situation est calme, un assaut a été donné, il n'y a pas eu d'affrontement. Les soldats du RSP ont quitté la caserne, a déclaré le chef d'état-major des armées du Burkina.
Que va faire maintenant le général Diendéré? Va-t-il se rendre à la justice? La réponse de l'ex-putschiste burkinabé hier à Idriss Fall.
Je pense que je vais me mettre à la disposition de la justice de mon pays. Je crois que cela est absolument nécessaire. Je ne compte pas me soustraire à la justice de mon pays.
Aujourd'hui, est-ce que vous allez vous rendre à l'armée, par exemple?
Je verrai les conditions dans lesquelles cela va être fait, mais je vous dis que je ne vais pas me soustraire à la justice de mon pays.
Le général Gilbert Diendéré. En RCA, levée progressive des barricades dans les rues de Bangui après plusieurs jours de violences meurtrières. Les ex-Séléka rejettent toute responsabilité dans les troubles actuels dans la capitale. Les explications de Mustapha Sabone, coordonnateur politique des ex-rebelles, au micro, toujours d'Idriss Fall.
Nous ne sommes pas mêlés parce que nos éléments à Bangui sont toujours cantonnés dans le camp Béal, PSS et RDOT. Nos éléments en dehors du pays sont à Kagabandoro, à Birao et puis à Ndélé et à Bambari.
Et pourtant, on parle d'affrontements entre chrétiens et musulmans, surtout depuis l'assassinat samedi d'un jeune musulman en mototaxi, non?
Mais le problème centrafricain n'est pas un problème confessionnel. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit c'est entre chrétiens et musulmans. C'est un faux problème. Ça, c'est déplacer le problème réel de la République centrafricaine. Vous savez, si nous lançons un coup d'œil rétrospectif dans l'histoire de la République centrafricaine après Barthélemy Boganda, il y a eu 6 chefs d'État. Sur le 6, 3 sont des musulmans. Il y a eu Salahaddin Ahmed Bokassa qui a embrassé l'islam à un moment donné de son histoire. Il y a Mustapha Patassé qui a embrassé aussi l'islam. Et il y a Michel Diotodia qui est aussi musulman. Donc nous n'avons jamais connu ce problème confessionnel en Centrafrique.
Mustapha Sabone, coordonnateur politique des ex-rebelles de la Séléka. Malgré les violences à Bangui, Stuart Symington, le représentant spécial américain pour la Centrafrique, réclame le maintien des élections prévues le 11 octobre dans le pays. Il faut écouter la voix des Centrafricains, a-t-il déclaré au micro de Nicolas Pinault.
Le peuple centrafricain, plus que 1,6 mille personnes, se sont enregistrées pour pouvoir voter dans les élections. La société civile a dit dans le forum de Bangui non à la violence, oui à la sécurité et la stabilité. Je pense que le pays tout entier visait vers un futur partagé avec tout le peuple centrafricain. C'est ça la claire volonté de la grande masse du public centrafricain. Ce qui vient de se passer à Bangui était causé par quelques éléments qui ont produit des actes de violence. Ce que nous allons faire nous-mêmes, la communauté internationale, c'est notre ferme conviction que les élections doivent se passer comme prévu et que toutes les tentations d'éviter que le peuple centrafricain peut se rassembler et aller pacifiquement vers l'expression de leur volonté doivent être rejetées complètement par la communauté internationale.
Pourquoi cet entêtement de la communauté internationale à vouloir voter absolument le 11 octobre prochain en Centrafrique?
Je pense que l'estimation a été qu'il y a peut-être 2 millions de votants possibles, pas seulement qui se trouvent dans la République centrafricaine, sinon à l'extérieur. Maintenant, ils ont déjà enregistré, comme j'ai dit, 1,6 millions de personnes. C'est-à-dire que massivement, les Centrafricains se sont allés enregistrer. Cet enregistrement inclut les gens qui sont dans les camps de réfugiés et dans les camps des gens déplacés. Ça va aller leur donner l'opportunité de s'exprimer. Les élections doivent être vues comme l'expression de la volonté du peuple centrafricain. Je pense que pendant longtemps, il y avait pas mal de gens qui veulent signaler ce que le peuple centrafricain veut. Maintenant, ils ont une opportunité. Cette opportunité s'appelle les élections. Ça ne va pas terminer le processus. Nous voulons voir que la voix de Centrafrique s'écoute aujourd'hui dans la fin de la transition avant la fin d'année et grâce aux efforts des Centrafricains. Ce n'est pas seulement le but qui est clair, sinon aussi le chemin.
Stuart Symington, représentant spécial des États-Unis pour la Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En France, du nouveau dans l'enquête sur les biens mal acquis impliquant les familles de plusieurs leaders africains. La justice française a saisi plusieurs propriétés, dont une luxueuse demeure dans la région parisienne. Michel Joseph.
Pour rappel, l'enquête a été déclenchée à la suite d'une plainte de l'ONG Transparency International datant de 2009 et visant les patrimoines français des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Teodoro Biangema de Guinée équatoriale et le défunt président Omar Bongo du Gabon. L'ONG accuse ses leaders d'avoir détourné les deniers publics de leur pays au profit de leur famille. Dans le cas du Congo-Brazzaville, la saisine des propriétés en question avait été ordonnée le 15 août. Les enquêteurs soupçonnent un neveu du président congolais, Wilfried Nguesso, d'en être le véritable propriétaire. Ce dernier s'abritait derrière des sociétés écrans.
La lutte contre les groupes terroristes État islamique et Boko Haram au centre de la rencontre de haut niveau mardi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Y ont participé de nombreux leaders et hauts responsables, notamment le président américain Barack Obama et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à New York, Tatiana Mosso.
Réunis autour de Barack Obama et de Ban Ki-moon, le président nigérian et le premier ministre irakien pour une discussion sur les violences extrémistes devant des chefs d'État attentifs. Un thème qui tient à cœur au président américain, c'est en effet le second sommet du genre que dirige Barack Obama.
À ce sommet, nous voyons un nouveau mouvement mondial pour contrer le genre d'extrémisme dont le groupe État islamique a besoin pour survivre. Tout comme les terroristes et les tyrans de l'histoire, le groupe État islamique finira par perdre, parce qu'il n'a rien d'autre à offrir que la souffrance et la mort.
L'occasion de parler en longueur des menaces terroristes, notamment sur le continent africain, avec Boko Haram. Boko Haram et son allégeance à l'État islamique qui met plus que jamais en danger les pays du bassin du lac Tchad. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, était donc au premier rang pour plaider la cause de la région.
Toutes les options doivent être explorées et tout le monde doit mettre la main à la pâte dans la quête pour une solution durable à la menace que posent les groupes État islamique. Al-Qaïda, Boko Haram et autres.
Pendant plus de deux heures, il a été martelé que la lutte contre le terrorisme est l'un des plus grands challenges sécuritaires de ces dernières années. Il faut donc une coalition forte pour le vaincre, mais les défis restent importants, comme l'a souligné le Premier ministre anglais David Cameron.
Dans les pays occidentaux, cela signifie que nous devons extirper les prêcheurs extrémistes qui empoisonnent l'esprit des jeunes musulmans dans nos pays. Nous devons bâtir des sociétés plus intégrés, de sorte que les jeunes sentent qu'ils en font partie.
On retiendra que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies sont une priorité dans cette bataille. Il ne faut pas juste attaquer l'État islamique sur son sol, mais aussi dans ses réseaux, a ajouté la ministre norvégienne des Affaires étrangères. Enfin, reconnaître aussi la responsabilité des pays arabes dans le problème des extrémistes, selon le roi de Jordanie.
La guerre civile en Syrie, Washington et Moscou n'ont pas la même approche sur le conflit. Les États-Unis réclament avec insistance le départ du président de la Syrie, Bachar al-Assad, alors que la Russie soutient vigoureusement le leader syrien. Et pour terminer, l'islamiste malien Ahmad al-Faqi al-Mahdi, soupçonné d'avoir dirigé la destruction de mausolées à Tombouctou en 2012, a comparu ce matin devant la Cour pénale internationale de La Haye. Une audience préliminaire très rapide où le suspect a été informé des crimes de guerre qu'on lui reproche. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.